Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Touchdown Actu avec un débrief consacré donc à chaque division de NFL et aux différents choix effectués par les franchises lors de la draft NFL 2024. Focus aujourd'hui sur l'AFC Sud avec notamment les appréciations concernant les décisions qui ont été prises par les Houston Texans, les Indianapolis Colts, les Jacksonville Jaguars et les Tennessee Titans. Pour en parler aujourd'hui, il me fait encore le plaisir d'être en ma compagnie, Jean-Michel Bougeard. Salut Jean-Mi.
Salut Greg, salut tout le monde.
Et donc, il y a encore des choses à dire du côté de cette conférence AFC. On sait que la conférence américaine, ces dernières années notamment, c'est toujours extrêmement disputé. Donc, à l'instar de l'AFC West dont on avait parlé il y a quelques heures de ça, on va s'intéresser donc à ce qui a été fait par l'AFC Sud, hein, à commencer notamment par les Houston Texans, dont on sait qu'ils avaient été très très actifs lors de la free agency, mais pas que, puisqu'il y avait notamment eu l'arrivée de Stephon Diggs par le biais d'un échange en provenance donc des Buffalo Bills, eh bien, au niveau de leur choix de draft. Même sans premier tour, ça a été très très actif de la part de Nick Caserio, le general manager. On a donc Kamari Lassiter, le cornerback de Georgia, et Blake Fisher, le tackle de Notre-Dame au deuxième tour. Kalen Bullock, le safety de USC au troisième tour. Kate Stover, le tight end d'Ohio State au quatrième. On avait ensuite au sixième tour Jamal Hill, linebacker d'Oregon, et Jawar Jordan, running back de Louisville. Et puis pour terminer au septième tour, Solomon Bird, defensive lineman de USC, Marcus Harris, defensive tackle d'Auburn, et Ladarius Henderson, garde de Michigan. Il y a quasiment toutes les positions qui ont été draftées du côté de Houston, peut-être à l'exception forcément du quarterback et du receveur qui avait été récupéré par le biais d'un échange. Qu'est-ce qu'on pense globalement de cette draft, Jean-Mi, au-delà de ce que tu avais déjà dit, par exemple, à l'issue des deuxième et troisième tours? Je crois savoir que tu avais un ressenti assez positif sur les premiers choix qui avaient été effectués par les Texans.
Oui, c'est très positif, surtout sans premier tour, donc forcément, tu perds un peu de ce star power, du joueur vraiment supérieur, tu n'avais pas de premier tour, et pourtant, tu récupères des joueurs qui peuvent devenir titulaires. Je pense à Kamari Lassiter, par exemple, pour moi, il peut tout à fait s'imposer de par sa formation à Georgia, de par ce qu'il nous a montré sur le terrain à Georgia. Je pense que même dès sa saison rookie, il peut s'imposer. Après, c'est plus facile, c'est un corner, hein. Des fois, il y en a 4, il y en a 5 sur le terrain, donc il fera partie des 4-5, il y sera de toute façon. Et puis ensuite, c'est très solide. Alors après, je mettrai un petit bémol à un moment donné, mais sinon, voilà, il y a quand même de très belles sélections. Les automatismes, c'est toujours intéressant. Donc, par exemple, c'est vrai que le besoin de Titan, il n'était pas énorme avec déjà du Schultz, du Quintonario, etc. Mais tu fais venir Kate Stover, il a déjà cette connexion avec CJ Stroud et c'est intéressant. En plus, c'est plutôt un bon tight end, Kestover. C'est pas une flèche et tout, mais c'est un tight end très complet qui peut apporter en bloc et aussi un peu en réception. Donc voilà, le style de choix très intéressant. La complémentarité aussi, quand je pense à Kalen Bullock, c'est pas le meilleur safety de la QV, enfin un des meilleurs tout de même, hein. Mais c'est surtout que je le trouve très complémentaire d'un Jalen Pitre. Donc même si je pense qu'il sera pas forcément titulaire dès cette année, de toute façon il y a Jimmy Ward, mais tu le prépares un petit peu et pour l'avenir t'as un très bon duo de safety en plus très complémentaire. Donc oui, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est une bonne draft. Il y a juste un petit truc qui manque et j'en parlerai tout à l'heure.
Oui, moi j'ai déjà donné un petit peu mon ressenti. Alors, je ne sais pas si ça rejoindra ce que tu allais dire par la suite. Moi, encore une fois, forcément, en effet, il n'y a pas de premier tour, donc c'est un peu compliqué de s'attendre, tu le disais, à des playmakers en cascade. Il y a pas mal de paris, entre guillemets, dans le sens où il y a des joueurs qui doivent être encore un peu façonnés, je trouve, et où vraiment le coaching va avoir un rôle extrêmement important. Est-ce qu'on va pouvoir rectifier le fait que Kalen Bullock ait des prises d'angle un peu suspectes sur le run support? Ça, j'en suis pas convaincu à 100%. Blake Fisher, j'en avais parlé lors du direct, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit peu cette gestion de son poids de forme qui était assez problématique lors de ses derniers mois à Notre-Dame. Mais on avait vu au début de son cursus universitaire que vraiment pleinement focalisé, ça peut être un. Enfin, en tout cas, on va dire avec un poids adapté et la technique qu'il a déjà acquise. Ça peut vraiment être un tackle droit assez rapidement titulaire au niveau de cette ligne offensive de Houston et justement compenser les blessures un peu à répétition, notamment de Titus Howard. Kamari Lassiter, c'est des instincts qui sont un petit peu piégeux. Bon, ça, après, quel est le rôle d'un coaching staff dans le côté gestion du QI foot et surtout de l'anticipation du joueur, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est plus là-dessus où moi j'ai une retenue et où j'irais par exemple plus vers des encouragements, dans le sens où voilà, il n'y a pas de joueurs extrêmement flashy, il va y avoir une profondeur assez intéressante. Je pense que concrètement, même un Lassiter, par exemple, sur équipe spéciale, ou même un Stover, va falloir se coltiner. Hein. Je pense que c'est des joueurs qui peuvent vraiment apporter énormément dans ces secteurs de jeu aussi. On avait une équipe qui était assez complète avant la draft et qui le reste encore plus à mon sens. Donc voilà, j'aurais du mal à être négatif, mais j'aurais du mal aussi à aller plus haut qu'encouragement.
Oui, moi aussi, c'est ça, c'est encouragement. Parce que dans l'ensemble, je trouve que c'est très bien. Mais par exemple, je ne comprends pas vraiment le choix du deuxième tour de Blake Fisher. C'est plutôt un bon joueur, solide, ok, d'accord. Mais déjà disponible, il y avait Sua Amataya, qui me paraît quand même avoir un plus gros potentiel. Il y avait même un Rosengarten, si tu veux quelqu'un de plus près de suite. Et par rapport à Fisher, ça me paraît un petit peu mieux. Puis surtout, moi, je m'attendais à ce qu'il prenne quand même un defensive tackle au deuxième tour, à la place de ce tackle,
Moi aussi, ouais.
surtout qu'au deuxième tour, avec donc, même s'ils n'avaient pas le premier tour, mais après ils avaient pas mal de choix, ils pouvaient remonter un petit peu quand même. On a vu du Jerzan Newton par exemple qui est descendu, il était disponible au début du deuxième tour, tu aurais pu essayer de remonter pour aller le chercher par exemple. Puis même il y en avait d'autres, je sais pas, ils auraient pu remonter un tout petit peu, aller choper un Chris Jenkins ou quelqu'un comme ça, et je trouve que ça aurait plus de sens qu'un Blake Fisher. Voilà, c'est ce qui me manque et c'est ce qui fait que dans l'ensemble elle me plaît cette draft. Mais je vais aller sur encouragement, je ne mettrai pas plus qu'encouragement.
Oui, c'est ça. Après, moi, personnellement, j'aime beaucoup leur defensive tackle, Marcus Harris, mais je ne sais pas si vraiment son fameux plafond sera très, très élevé, parce qu'on sait concrètement ce qu'on en obtiendra avec notamment un solide, solide run stopper, mais est-ce que vraiment il pourra avoir une rotation vraiment intéressante à court terme, déjà dans un premier temps, puis même à moyen long terme, ce n'est pas encore une certitude, sachant qu'il y a eu beaucoup d'investissements malgré tout sur cette ligne défensive, même s'il n'y a pas que des playmakers, entendons-nous bien. Donc encouragement pour les Texans, on passe aux Indianapolis Colts à présent, Jean-Mi, avec notamment au premier tour la sélection de Latu, edge rusher de UCLA. On a également au deuxième Adonai Mitchell, receveur de Texas. Au troisième tour, Matt Goncalves, tackle de Pittsburgh. Un autre lineman offensif avec Tanner Bortolini, le centre de Wisconsin au quatrième tour. Trois joueurs sélectionnés au cinquième tour, à savoir Anthony Gould, receveur de Oregon State. Jalen Carlis, linebacker safety de Missouri, et Jalen Simpson, safety d'Auburn. Au sixième tour, Micah Abraham, cornerback de Marshall. Et donc le dernier joueur en septième tour, Jonah Laulu, defensive tackle d'Oklahoma. J'ai envie de dire une draft 100% Chris Ballard, c'est-à-dire pas forcément, c'est un peu sévère ce que je veux dire, une tête qui dépasse par rapport aux autres. Mais en tout cas, c'est extrêmement cohérent et on renforce souvent les lignes quand même du côté d'Indianapolis.
Oui, c'est vrai, exactement. Ben, après, le pass rusher, ils en avaient besoin. On en avait parlé justement pendant le direct. On se disait où ils peuvent aller, oui, receveur, mais sinon pass rusher, parce qu'il y avait un besoin. Et ils prennent le meilleur de cette QV. Et quand je dis le meilleur, je veux dire par là, celui-là qui est prêt de suite, celui qui a montré le plus de choses en pass rush pur. Après, pour le reste du poste, ben, il a encore du travail à faire, bien sûr. Mais voilà, il y avait besoin d'un pass rush extérieur et ils prennent celui qui t'apporte la meilleure compétence tout de suite. Donc déjà, c'est bien joué. Et puis, le receveur, on avait identifié aussi le besoin et finalement, ils le prennent au deuxième tour. C'est plutôt pas mal à 52 de récupérer un Adonai Mitchell qui a quand même un peu de gabarit, mais qui a également beaucoup de vitesse. C'est très intéressant. Après, moi, j'aime beaucoup leur cinquième tour aussi, les trois choix, là, que ce soit Gould, Carlisle, Simpson, ça apporte une belle profondeur. Et puis, voilà, comme tu dis, ça fait vraiment des joueurs un peu Chris Ballard, c'est-à-dire, comment dire, des joueurs, on les a vus en NCAA, ils ont contribué, ils sont physiques, ils ont une bonne mentalité, ils apportent vraiment des trucs, ils vont vraiment s'intégrer dans l'équipe, j'ai aucun souci là-dessus. Et puis, petit chouchou comme ça, Tanner Bortolini, voilà, on aime bien ce joueur centre très mobile, et ça peut être très intéressant. Bien sûr, ils ont déjà Ryan Kelly, mais bon, la ligne offensive, tu peux avoir des blessures. Donc, tu as une assurance. Et puis, pour l'avenir, je pense que ben, Bortolini, à terme, il pourra remplacer Ryan Kelly. Et c'est intéressant par rapport à ton quarterback qui est très mobile, Anthony Richardson. Donc, avoir un Bortolini devant lui qui peut très vite se relever, très vite aller bloquer sur le second rideau, etc. Ben, c'est intéressant aussi. Donc, c'est plutôt une bonne draft, comme tu dis. Tu ne te dis pas, waouh, ils ont pris lui ou lui. Ou... Peut-être un peu l'atout, tu vois, ou voir Mitchell au deuxième. Mais sinon, après, c'est. Pas super flashy, mais très solide.
Oui, exactement. Le seul mini bémol que je pourrais mettre en avance, c'est peut-être par rapport à Goncalves. Tu disais en effet, c'est bien d'avoir de la profondeur par rapport aux blessures. Mais quand on a un joueur qui est lui-même déjà un peu soumis à pas mal de petits pépins physiques pendant son cursus universitaire, ça peut, voilà, ça peut rajouter un petit peu de problématique justement dans ce secteur-là. Vaudra mieux que la première ligne tienne, parce qu'on n'est pas totalement rassuré à ce niveau-là pour un joueur qui, par ailleurs, a été extrêmement solide durant ces années passées du côté de la Pennsylvanie. Mais honnêtement, tu vas sur compliment ou encouragement du coup? Qu'est-ce que tu privilégies du côté d'Indianapolis?
Ah, il me manque un tout petit truc quand même, tu vois, pour faire compliment. Donc, encouragement, déjà, c'est positif, hein, mais je
Clairement.
vais aller sur encouragement, moi.
Ça me va. Je partirai sur encouragement également. Oui, peut-être qu'il manquait en effet le petit. Tu disais le petit grain de folie. Voilà. C'est peut-être aussi ça, et c'est peut-être aussi d'un point de vue offensif. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a rien contre Adonai Mitchell, qui peut être vraiment un vrai playmaker à moyen long terme, et à minima, je pense, une grosse menace, notamment aux zones rouges, pour proposer une solution efficace à Anthony Richardson. Ça en fera une de plus avec un Alex Pierce, qui n'est pas forcément toujours efficace, mais dont on sait qu'il peut être redoutable dans les 20 derniers yards. Mais c'est vrai que voilà, il manque peut-être ce petit élément qui fait qu'on se dit, bon, bah. Ça va quand même bousculer notamment Houston et Jacksonville à minima dans la division. Allez, Jean.
Et puis, ce qui me manque aussi, tu vois, pour monter un petit peu, c'est que vraiment, j'attendais dans ce draft pour les Colts vraiment un cornerback. Et là, ils y vont très, très tard en toute fin de draft, vraiment pour de la rotation, machin. Mais tu vois, à la place d'un Matt Gonsalves au troisième tour, même avec trois choix au cinquième, tu pouvais faire un petit package, remonter un petit peu et attraper un bon cornerback. En fin de deuxième tour, il y en avait, par exemple, Nice Rakechtraw qui a glissé en toute fin de deuxième tour. Ben, tu vois, si les Colts, par exemple, avaient monté un petit move pour revenir en fin de deuxième tour et choper ce type-là de cornerback, eh oui, là, j'aurais mis compliments, peut-être même félicitations. Mais il n'y a pas eu ça et ça manque quand même par rapport à leur draft quand je regarde leur effectif. Donc compliment parce que quand même globalement ça va, mais c'est pas plus que ça.
Très bien, donc on retient les compliments pour les Indianapolis Colts. Les Jacksonville Jaguars, à présent, draft qui était très très attendu, avec notamment au premier tour Brian Thomas Jr., receveur d'LSU. Autre joueur d'LSU sélectionné au deuxième tour, c'était Mason Smith. Au troisième tour, on avait Jarian Jones, cornerback de Florida State. Au quatrième tour, Javon Foster, tackle de Missouri. Et Jordan Jefferson, defensive tackle de LSU. C'est bien, vous suivez. Au cinquième tour, DeAndre Prince, cornerback d'Ole Miss, et Keelan Robinson, running back de Texas. Et puis pour terminer, donc au sixième tour, Cam Little, le kicker d'Arkansas, et Miles Cole, lineman défensif de Texas Tech. Jean-Mi, on s'est beaucoup tourné vers la Louisiane, donc du côté de Jacksonville, notamment sur la ligne défensive, hein, avec en effet deux defensive tackles ou deux linemen défensifs sur ce front 3 des Jags. Comment tu juges globalement cet effectif-là? Est-ce que pour toi, cet effectif est plus, comment dire, plus solide, plus armé au sortir de la draft qu'avant?
Ouais, un poil, voilà, un poil, parce qu'il fallait absolument rajouter un receveur et finalement récupérer Brian Thomas après être descendu dans le premier tour et tout, c'est très bien joué, je trouve. C'est un joueur qui, je pense, va bien s'inscrire dans leur escouade, donc c'est plutôt bien joué. Jarian Jones, moi je l'aime bien au troisième tour. Alors peut-être que j'aurais préféré un cornerback au deuxième. Tu vois, quand ils prennent Mason Smith, il y avait Mike Henry Steele de disponible, par exemple. Parce que Jarian Jones aussi, c'est plutôt un cornerback du slot. Donc tant qu'à faire, tu prenais Henry Steele au deuxième. Ça m'aurait paru meilleur, par exemple. Donc je trouve qu'ils sont un poil améliorés. Javon Foster qui amène une profondeur intéressante au poste de tackle offensif. Voilà, on sait que les blessures, ça arrive. On sait aussi que l'avenir de Cam Robinson est encore incertain. Walker Little qui n'a pas encore tout montré. Donc c'est bien de rajouter un Foster avec Harrison, etc. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes, mais il y a des choses aussi où, voilà, je trouve que l'équipe, tu vois, tu parlais d'améliorer l'équipe par rapport à l'année dernière, ben, au deuxième tour, tu prends Mason Smith, défensif tackle. Moi, la position, je veux bien, mais après, le joueur, alors le talent, il a, ça c'est sûr, Mais il a été freiné par une grosse blessure. Mais même quand il est revenu de blessure, il n'a pas non plus tout explosé avec LSU, alors qu'il avait tout ce qu'il fallait autour de lui. Il avait justement un Jefferson à côté de lui. Il avait du Perkins à ses côtés, etc. Il aurait pu tout exploser. Il ne l'a pas fait. Donc, si, juste après, le choix suivant, les Bengals, s'ils te prennent Chris Jenkins, ben ouais, je ne sais pas quoi. Si tu étais dans cette équipe, un Chris Jenkins, aux côtés d'Arik Armstead, de Roy Robertson Harris, etc. Ah oui, là-dessus, tu as amélioré ton secteur de defensive tackle. Alors que là, Mason Smith, je veux bien qu'il a des attributs physiques incroyables, mais c'est un pari pour moi. Donc voilà, je le dirais dans mon appréciation. Je ne vais pas dire c'est mauvais parce que ça ne l'est pas, mais ça aurait pu être, pour moi, ça aurait pu être beaucoup mieux.
Oui, alors je suis désolé, je vais répéter, un peu comme quand je parle de Cooper Dejean Safety, hein, j'ai cette tendance à être un peu lourd. Moi, la situation de Brian Thomas, je l'ai dit, j'aime le receveur en tant que tel, et j'aime pas trop le rôle potentiellement qu'on peut lui donner, parce que j'en parlais lors du live, le X receveur aujourd'hui, je le cherche. Alors on a coupé Zay Jones, il me semble, depuis la draft, hein. Donc désormais, il faut avoir au niveau des options. Est-ce qu'on part déjà du principe que Brian Thomas Jr. sera le receveur numéro 1? Est-ce qu'on se dit qu'on a filé un gros contrat à Gabe Davis et qu'en conséquence, ce sera lui le receveur de possession de cette équipe-là, sachant qu'il n'a jamais vraiment eu ce rôle-là du côté de Buffalo? C'est un peu ce qui m'interroge. Et à moins qu'on parte vraiment sur le jeu extrêmement vertical du côté de Jacksonville, ce qui n'était pas vraiment le style de jeu de Trevor Lawrence jusque-là, c'est là où j'ai des petits points d'interrogation. Mason Smith en a très bien parlé. J'ai pas grand-chose de plus à dire, même si en effet c'est un projet très excitant sur le papier. Malheureusement, on a l'impression que dès qu'il y a des projets, dès qu'il y a des spécimens athlétiques ultra excitants sur la ligne défensive, ça tombe souvent sur les Jags. Hein. J'ai souvenir de Taven Bryan à l'époque. Alors, je vais pas comparer les deux hommes parce que je pense que Smith est un peu plus intéressant à moyen long terme que ne l'était Bryan à l'époque. Mais c'est vrai que malheureusement, ça retombe un peu sur les Jags. Jordan Jefferson, va vraiment falloir le focaliser parce que c'est l'air d'être un joueur qui part un peu dans tous les sens aussi par moment. On a vu que la nervosité, ça a coûté un petit peu cher en fin de saison du côté de Jacksonville, mais si de toute façon, il n'y arrivera pas comme titulaire, a priori, dans un premier temps. Moi, je suis très intrigué paradoxalement, les deux choix qui, moi, je me dis, bon, ce n'est pas inintéressant, c'est Keelan Robinson, pour lequel j'ai beaucoup milité pendant le processus draft, aussi, enfin, principalement parce que ça peut être une véritable arme sur retour de coup de pied. Donc, vraiment, sur équipe spéciale, ça peut être un joueur précieux, et pareil. Sur équipe spéciale, tu as potentiellement ton kicker titulaire. Donc bon, ça après, est-ce que Cam Little était le meilleur kicker de cette draft? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut t'aider à t'améliorer dans ce secteur-là. Moi, c'est un point forcément intéressant à mettre à leur crédit. Après, oui, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, j'oscillerai entre le passable et l'encouragement selon ton appréciation globale.
Ouais, tu vois, juste par rapport au receveur numéro 1, faut quand même pas oublier que le receveur numéro 1, c'est pas un receveur,
C'est le
mais c'est un
Tyden.
receveur. Voilà, c'est Evan Ingram et c'est
Oui,
lui la cible numéro 1 et
on
puis
est
il est très
d'accord.
bon et donc voilà, on s'en fiche, il soit tight end, receveur, voilà. Donc ils ont quand même déjà leur numéro 1 et après ils ont des joueurs intéressants à côté avec Davis, avec Kirk, tu rajoutes Thomas, il y a Duvernay. Bon, moi, ça me convient. Mais donc, dans l'ensemble, voilà, moi, j'y vais sur passable parce que c'est pas mauvais, mais voilà, des choix qu'on surprise, je vais pas tout répéter, on l'a dit. Et bon, pour moi, c'est passable.
Passable, en effet, donc pour les Jacksonville Jaguars. On a terminé donc cette émission avec les Tennessee Titans, très attendu également, puisque détenteur du 7e choix, notamment lors du premier tour. Et donc, mini surprise, mini sensation dans ce premier tour de la draft, Jean-Mi, avec la sélection de JC Latham, tackle d'Alabama. On avait également Tyvandre Sweat, lineman défensif de Texas au 2e, Cédric Gray, linebacker de North Carolina au 4e. On avait ensuite au 5e tour Jarvis Brandley Jr., cornerback de Louisville. Et Jaquan Jackson, receveur de Tulane au 6e tour. Et puis pour terminer, 2 jours au 7e, avec James Williams, le safety de Miami, et Jalen Harrell, le edge rusher de Michigan. Alors, on ne va peut-être pas répéter ce qu'on a dit sur Latham au premier tour. Enfin, en tout cas, on peut le faire pour en contextualiser peut-être plus globalement. Mais est-ce que le reste de cette draft arrive à compenser un peu ce qui était pour nous une grosse surprise? Quel est ton ressenti au sortir de cette classe, au vu de cette classe.
Bah, ouais, le ressenti global, moi, il n'est pas très très haut par rapport aux Titans. Franchement, Alors Jesse Latham, oui, il est pas mal critiqué, mais quand même c'est un bon tackle, il n'est pas titulaire à Alabama pour rien, il a quand même montré des bonnes choses, et je pense que chez les pros, il pourra faire quelque chose, mais le souci, c'est que tu le prends à 7, et à 7, le souci, c'est que tu avais un potentiel tackle gauche avec Fashanu, tu avais un potentiel tackle droit avec Fuaga, et les deux me paraissent quand même meilleurs que Jesse Latham, que ce soit en plancher et en plafond, enfin en plancher. Allez, on va dire que là, pour le day one, Jesse Latham, il peut peut-être t'apporter un peu plus qu'un Fashanu, allez, c'est possible. Mais très rapidement, les deux autres ont quand même beaucoup de potentiel. Donc oui, très surprenant ce choix-là. Après, Banco sur le deuxième tour, ok, ce sera peut-être qu'un two-down player que sur les deux premières tentatives, mais quelles deux premières tentatives, Trevon Dressouet. Voilà, vraiment le défensif tackle très massif. À côté de lui, Simmons va vraiment se régaler. Donc ça me plaît. Après, tout le reste, c'est du ouais, bon, c'est Derrick Gray, Brandley, si tu veux. À la limite, moi j'aime bien les deux choix du septième tour. Voilà. Parce qu'au septième tour, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des paris, tu te dis, de toute façon, on va améliorer l'équipe spéciale et après on voit ce qui se passe. James Williams, c'est un safety qui est très grand. C'est vraiment, voilà. Pensez Derwin James au niveau du gabarit, pas du niveau de jeu, hein, mais du gabarit, voilà. C'est ce type-là de safety. Donc c'est intéressant à voir comment il peut se développer dans la rotation, qu'est-ce qu'il peut apporter. Et Jalen Harrell, c'est un spécimen physique. On l'a bien vu avec Michigan. Lui aussi, c'est pas encore un produit fini, mais il a vraiment les attributs qu'il faut, et au septième tour, ben, c'est malin de tenter le coup sur lui, je trouve. Tu as déjà tes titulaires avec Landry, avec Kay, ben, tu mets un Harrell derrière en développement. Voilà, j'aime bien l'ordre de choix du septième tour. Mais sinon, voilà, globalement, ben, j'attendais mieux quand même des Titans.
C'est un peu ça. Alors, tu l'as dit, c'est vrai que sur l'équipe spéciale, il y a des joueurs qui peuvent apporter. Cédric Gray. Moi, Jarvis Brandley, j'aime beaucoup et je serais curieux de voir ce qu'il peut apporter. Mais c'est vrai qu'à minima, donc, sur les équipes spéciales, je pense que c'est deux joueurs qui peuvent être assez précieux en plus des joueurs que tu as déjà cités. Donc, du coup, on est forcément un peu obligé de résumer aux deux principaux choix. Tyrone Dressouet, pour moi, s'il ne fait pas d'autres bêtises extra-sportives, il y a quand même largement de quoi être titulaire dès la saison rookie. Voilà, sans vouloir faire offense à Sébastien Joseph Day ou Kendrick Auburn, avec qui il a déjà joué hein, d'ailleurs. Hein, donc il y a aussi des
Oui.
automatismes entre les deux anciens compères de Texas. Mais Tevondre Sweat, c'est sûr que de par son gabarit, on se dit que c'est un nose tackle classique. Pas du tout, c'est un joueur qui peut jouer malgré tout partout. Après, tu l'as dit, est-ce qu'il aura le coffre pour jouer sur trois tentatives? Ça, c'est encore loin d'être certain. Mais en tout cas, il y aura vraiment dans l'idée de dynamiser un petit peu ce qui peut ressembler au nouveau front 4 de Tennessee dans le système de Dennard Wilson. D.C. Leffem, moi, ce qui vraiment m'embête dans cette histoire, c'est que j'aimerais savoir c'est quoi la perspective par rapport à ça. C'est-à-dire que en tackle droit titulaire jour 1, je ne me fais pas de doute. Mais a priori, il y avait quand même Dylan Raddons qui était là sur la position. Donc, où tu recentres Dylan Raddons en te disant bah, on a un tackle droit beaucoup plus établi et on remet Raddons là où on envisageait de l'avoir sélectionné au début. Ou alors tu te dis on garde Raddons à droite et on tente Leifem à gauche. C'est un gros pari qui est tenté parce que, encore une fois, je trouve que c'est pas très clean, on va dire, dans l'optique de l'évaluation de Will Levis. Tu vas pas forcément juger. Alors, c'est toujours pareil, il y a des quarterbacks, Russell Wilson a été historiquement mal protégé, ça l'a pas empêché de faire une carrière en NFL. Voilà, si Will Levis a du talent, même si la ligne n'est pas forcément parfaite de bout en bout, c'est sûr que voilà, enfin, il y aura quand même des choses où on pourra dire bah là, il y a quand même une erreur de sa part, etc. etc. Mais c'est clairement pas le mettre dans les meilleures dispositions. Et à mon sens, cette sélection de Latham, c'est plus pour rendre service au jeu au sol et au duo Pollard Spears que vraiment pour protéger efficacement Will Levis qui risque de nouveau de se retrouver avec des tackles gauche un peu expérimentaux. Et en effet, ce qui amène à se dire du côté de Tennessee, bah, est-ce que l'équipe est vraiment meilleure qu'avant la draft? Ben, j'en suis pas persuadé à 100% parce qu'il y a un trou béant sur le poste de tackle gauche, dont je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il soit réellement comblé. Donc voilà, encore une fois, on peut le tester à gauche, hein, ça tombe bien parce que Brian Callahan, il a évolué à Cincinnati. On a pensé que Jonah Williams était un tackle gauche pendant des années et des années avant de se rendre compte que ce n'était pas le cas et de le mettre finalement à droite. Peut-être que malheureusement pour lui, on se rendra compte également avec la femme du côté de Tennessee, mais il ne faudra pas perdre du temps en cours de route. Donc du coup, on va sur quoi? Sur du passable sans être trop sévère du côté des Titans? C'est quoi ton appréciation là-dessus?
C'est quoi après passable en
C'est
dessous?
mauvais.
Moi j'ai envie de dire mauvais, hein. J'ai envie de dire mauvais parce que d'accord, tous les choix ne sont pas mauvais. C'est mauvais, ça veut pas dire ça. On l'a dit, on a développé un peu sur les choix. C'est pas tout mauvais. Mais moi, je mettrais quand même mauvais parce que tu as vraiment besoin de plus d'un tackle gauche. Donc, Fashanu est disponible. Je ne comprends pas. En plus, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a entendu dire que Atlanta a reçu des coups de fil, etc. Donc, j'en doute pas. Les Tennessee, les Titans, ils ont dû recevoir des coups de fil aussi pour ce choix 7. Ben voilà. Ben, je ne sais pas. Fais un mouvement. Il y a la limite et tu prends Latam à 12, à 13. Il aurait été disponible. Il faut arrêter les bêtises là. Il aurait été disponible et tu récupérais un petit peu des pics pour continuer, etc. Et là, j'aurais mieux aimé. Mais là, franchement, non, pour moi, c'est mauvais. Après, l'avenir, il me donnera raison ou tort, hein, mais pour moi, c'est mauvais.
Écoute, je vais être juste sur cette appréciation et donc ce sera du mauvais pour Tennessee. Donc on rappelle, on avait donc encouragement pour Houston, encouragement pour Indianapolis, passable pour les Jaguars et donc mauvais pour les Titans. L'AFC Sud qui ne marque pas forcément beaucoup, beaucoup de points à l'issue de cette draft NFL 2024. Mais voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires en toute bienveillance, bien entendu, pour échanger à ce sujet. On n'aura aucun souci là-dessus. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire. Merci en tout cas, Jean-Mi, d'avoir été en ma compagnie. Et vous continuez de retrouver les différentes pastilles consacrées au débrief de la draft au cours des prochains jours à venir. À très vite sur les antennes de TBA. Salut à tous.
50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.